Alors qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une preuve écrite comme quoi il a perdu 82 et ce monsieur-là croira que c'est vrai ? C'est ça qui est difficile. Alors la réponse que j'ai faite au médecin, je lui ai dit ceci. Je lui ai écouté. En 1905, Einstein a découvert la théorie de la relativité. Et puis les Anglais ne voulaient pas y croire parce que les Anglais étaient obnubilés par Newton. Et ils avaient raison. En vérité, il fallait une preuve. Vous savez, ça contredisait ce que pensaient les positivistes ou les scientistes qui pensaient qu'on ne peut croire que ce que l'expérience a déjà, comment dirais-je, prouvé. Eh bien, j'ai dit à mon médecin, écoute, voilà, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que la théorie d'Einstein est née là-dedans. Et pour la vérification, ça se passait là-haut. Pas ici, mais là-haut. Seulement, c'est venu un peu plus tard. Et vous savez, dans l'Amérique du Sud, les Anglais ont fait à un moment, il y a eu une planète, une météore, si vous voulez, qui approchait une autre planète. Et la théorie d'Einstein, c'était qu'au voisinage, au voisinage d'une autre planète, d'un corps céleste, il y a une déviation d'angle d'une minute et quelques. Il fallait donc prouver maintenant, avec la lunette, le télescope et tout, que c'était vrai. Et donc, vérifier la théorie d'Einstein. Alors, les Anglais ont vérifié. Et ce jour-là, quand on a publié, on a dit, c'était la mort de Newton. C'était vrai. C'était extraordinaire, d'ailleurs, sur le plan scientifique, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il faut comprendre cela. Une théorie humaine, née comme ça dans l'esprit d'un homme, et vérifiée comme ça. Vous savez, quelque chose qui se passe en haut à des milliers de kilomètres, des millions de kilomètres, et vérifiée par un simple instrument, vérifie la théorie née justement d'une plume dans l'esprit. Eh bien, c'est ce que j'ai dit à mon médecin. J'ai dit, c'était vrai. On ne l'avait pas encore vérifié. Est-ce qu'on ne va pas y croire ? Ça fait partie de la réalité. C'est vrai, parce que c'est réel. Et les camps de concentration, moi je suis allé à Auschwitz, je suis rentré dans une chambre à gaz pendant les fours crématoires. J'ai dit à ce monsieur d'aller faire un voyage là-bas, il verra bien. Et il verra quelque chose qui est d'ailleurs... La chambre à gaz, d'ailleurs, c'est pas si extraordinaire que cela. Vous savez, c'est deux trous au plafond, bon, c'est surtout le résultat qui est extraordinaire. Mais il y a quelque chose qui était beaucoup plus frappant à Auschwitz. Et quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. C'est pas les prothèses, vous savez, les collections de prothèses qu'ils mettent derrière des vitres. D'ailleurs, comme dans des salles comme ici, ils mettent une vitre, puis ils mettent toutes les prothèses, toutes les valises des déportés. Et puis à un moment, une collection de lunettes. Jusqu'à là, ça ne m'avait pas frappé. Seul le nombre. Mais une chose m'a frappé davantage. C'était les chaussures. Parce que la chaussure épouse la souffrance. Il y a la marque de la souffrance humaine. Les chaussures tordues, les chaussures broyées, les chaussures déchirées. Là, on voit... C'est à ce moment-là, quand j'ai vu cette collection de chaussures, que ça m'a frappé. Il faut aller à Auschwitz, ici. Alors, naturellement, il y a beaucoup de gens qui mettent en doute, même parfois des anciens déportés, on a vu cela. Bon, mais c'est une chose au moins qui est correcte, c'est que les Juifs américains et les Américains qui n'ont pas été en Europe, eh bien, ils y croient. Ils y croient parce qu'il y a eu le procès de Nuremberg, et je l'ai dit d'ailleurs à ce monsieur, il y a eu le procès de Nuremberg, on a parlé du gaz, de le Zyklon B, etc. C'est quelque chose que tout le monde accepte. Maintenant, on commence à discuter, mais aux États-Unis, qu'on n'est pas d'accord sur le chiffre, on essaie avec le néo-nazif de faire croire que tout ça c'était de la blague. Pendant un certain temps, Timon Wiesenthal, il partait en guerre pour essayer de retrouver le policier qui avait arrêté Anne Frank. Pourtant, il disait dans son livre très émouvant, où il y a une partie d'ailleurs de sa vie, « Les assassins sont parmi nous ». Il a dit « Mais moi, de toute façon, ça ne m'intéressait pas tellement d'arrêter le policier d'Anne Frank. Je l'ai arrêté parce que je voulais prouver qu'Anne Frank n'était pas un mythe, ce n'était pas un rêve. C'était une enfant qui avait existé. Alors en arrêtant le policier, je prouvais que l'histoire était vraie. C'est terrible quand il faut... Et je crois qu'on n'a pas fini, en vérité. On aura toujours à prouver à certains moments que... Je ne parle pas seulement d'Anne Frank, mais je crois qu'on a toujours à prouver que certaines choses sont vraies. Aujourd'hui, on n'a pas le même réflexe, voyez-vous, en ce qui concerne la communauté juive de Russie. La Russie, c'est différent, parce que maintenant, il en est sorti près de 200 000 depuis une dizaine d'années. On a les témoignages, on ne les met pas en doute, pas tellement du moins. Parce que de toute façon, il faut reconnaître une chose, c'est que Brejnev et Staline, ça fait deux. Donc on peut plus facilement croire... ce qui se passe sous Brejnev, pourquoi ? Parce qu'il laisse sortir des Juifs. Et moi je dis toujours que c'est peut-être pas la lune de miel, mais que, comme dit d'ailleurs Elie Wiesel, les Russes on les comprend pas, de temps en temps ils vous en laissent sortir, de temps en temps ils vous en mettent en prison, etc. Ils font des procès pour les droits de l'homme, etc. Bon, ils sont en dessous. Mais malgré tout, quand Brejnev s'en ira, on se posera bien la question de savoir si on pourra encore sortir de Russie. Moi, on m'a demandé récemment, par l'ambassade, si je voulais aller faire un séminaire scientifique à Moscou, parce qu'on envoie de temps en temps des... Moi, j'ai un problème, parce que moi, je suis à Saclay, déjà. Une fois, j'avais demandé à y aller, et je n'ai pas pu y aller. Deuxièmement, j'ai ma famille en Ukraine, et en Sibérie, Et je veux bien aller en Ukraine, mais je ne veux pas aller faire le séjour en Sibérie, il fait trop froid. Et donc c'est un problème, on ne peut pas pénétrer comme cela. Mais j'ai un ami qui, pas plus tard que dimanche dernier, il y a donc 4 jours, m'a téléphoné, un scientifique, il revenait de Russie, il revenait exactement de Leningrad, c'est un voyage d'affaires, et il m'a raconté, il est allé à la choule de Leningrad. Il m'a raconté comment ça se passait, je lui avais demandé justement de me faire un rapport au retour. Il m'a dit, il n'y a pas un jeune, il n'y a pas une personne, il n'y a pas un juif en dessous de 45 ans. Il y a 40 personnes dans la choule, très jolie choule. On m'a donné même la haftara à lire. J'ai trouvé ça même très, très émouvant. Et il m'a dit simplement, quelqu'un est venu à un moment, il m'a demandé, est-ce que vous avez un sidour ? Lui, il parlait seulement, non pas en russe, ni en yiddish, il parlait en allemand. Il voulait un livre de prière, parce qu'on ne trouve plus de livre de prière. Alors quand on est là-bas, on arrive et on laisse ses affaires, on laisse ses tefillin, on laisse ses livres, on laisse tout. C'est-à-dire tout ce qui est de culture juive, de cultuel juif, on le laisse, parce que nous, on sait très bien qu'on va en retrouver quand on reviendra en Occident, mais eux, ils en ont tellement besoin. Je crois que c'est terrible, c'est comme ça, et tout ce qu'on a écrit là-dessus est vrai. Il n'y a rien de nouveau. Simplement, il y en a qui vont là-bas et qui constatent que tout ce qu'on écrit là-dessus est vrai. Je crois qu'il y a un point quand même qu'il ne faut pas oublier à propos des juifs américains. Et vous savez que maintenant, je ne sais pas si vous avez... Est-ce que certains d'entre vous ont lu le... Moi, j'ai trouvé ça admirable. D'ailleurs, j'ai lu ça à mes élèves. Je donne une heure de cours à l'école Yavne à côté en histoire juive. Et je leur ai lu ça un jour, en décembre dernier, à la place du cours que je devais faire. Je leur ai lu l'admirable discours prononcé par Simone Veil devant l'exécutif du Congrès juif mondial à Washington. Vous avez lu ce discours ? Non, le philosophe. Il y avait Lurette qui n'est plus là. Hein, le ministre. Vous avez lu ? Non ? Personne n'a lu ?
Si, dans l'information juive.
Oui, vous avez lu. Mais les autres, personne n'a lu ? Toi, t'as lu ? Et l'autre ? Non ? Si vous permettez, je vous lise deux lignes, trois lignes. Si je l'ai, je crois que je l'ai. Parce que c'était, ça résume bien la situation de ce colloque. Vous savez que Simone Veil, je crois que je l'ai ici, j'espère, Simone Veil a été déportée dans sa jeunesse. Est-ce que je l'ai laissé là ou non ? Oui. Simone Veil a été déportée dans les camps de concentration, elle n'avait que 17 ans. Et je crois que c'est la remarque qu'elle fait, ce discours d'une très haute tenue, à mon avis, ça devrait être lu dans les écoles juives, parce que je pense que c'est très très bon comme discours. Et elle dit ceci, que j'ai souligné d'ailleurs. Elle dit deux choses. Je suis née juive, mais sans l'avoir pourtant jamais démenti ni renié. Je ne le suis vraiment devenu qu'à l'adolescence face à l'antisémitisme pendant la guerre. Ni mon père ni ma mère n'étaient pratiquants. Nous n'étions pas une famille intégrée dans le judaïsme militant. Je ne savais pas même quelles étaient les fêtes juives, à quoi elles correspondaient. Les fêtes familiales étaient essentiellement pour moi les fêtes chrétiennes qui jalonnent l'existence. Aujourd'hui, j'ai cette conscience d'une spécificité. On ne peut avoir vécu dans son cœur et dans sa chair ce que furent les camps sans vouloir ensuite s'assumer pleinement. L'extermination des Juifs par Hitler a rappelé à certains qui s'étaient éloignés de la communauté qu'ils en faisaient partie, comme les pogroms avaient interdit à leurs ancêtres de l'oublier. Mais l'on ne peut accepter que ce soit ça le miracle juif. Mon identité est davantage une fidélité qu'un attachement religieux, et je la ressens aussi comme un phénomène culturel. Ce que mes parents m'ont apporté, c'est tout d'abord une culture littéraire et intellectuelle dont je dirais qu'elle était faite moins de laïcité que de curiosité d'esprit, d'intérêt pour ce qui est le livre et le verbe. Rappelons ce que disait Peggy. Le juif peut remonter de génération en génération, il peut remonter pendant des siècles, il trouvera toujours quelqu'un qui sait lire. Et regardez ce passage, très intéressant. C'est aussi une éducation faite de tolérance, de non-convention et de liberté totale d'esprit. Cette liberté est, me semble-t-il, la marque de la façon dont le peuple juif aborde les problèmes intellectuels. Je suis toujours frappé de ce que les juifs font preuve dans leur approche de la discussion, d'un esprit de total dégagement à l'égard d'un certain nombre de tabous et d'idées reçues. À quoi cela est-il dû ? J'imagine que c'est la façon dont les juifs abordent sur le plan culturel l'étude de la Bible. Leur religion leur fait presque obligation de repenser par eux-mêmes les problèmes. Dans les relations humaines, il me semble qu'on reconnaît souvent les juifs à cet esprit qu'on peut qualifier de contestataire. La question que je me pose parfois est celle de savoir si ce n'est pas là la conséquence moins du fait religieux que du fait minoritaire. Et à la fin, parce qu'il est long cet article, Et je tiens tout de suite à vous dire que quand c'est la première fois que dans le gouvernement français, qu'un membre du gouvernement français, enfin juif, parlait à des instances officielles, du moins juives, le Congrès juif mondial, et en plus à Washington. Je crois que c'est très intéressant. Elle était encore, il n'y a pas si longtemps, aussi au mémorial juif rue Geoffroy-Lanier pour l'anniversaire du gâteau de Varsovie. Je crois que quand même, c'est faut le souligner, un membre du gouvernement qui en est là, je crois que c'est très intéressant. C'est un article tout à fait remarquable. Je crois qu'elle raconte même à propos de l'antisémitisme. Elle regrette que les rescapés des camps de concentration dont je suis parlent peu de leur déportation, pudeur ou désir d'oublier à tout prix ce qui fut la barbarie. De ce fait, nos enfants ignorent trop souvent les dangers du racisme et de l'antisémitisme. Ils appartiennent à la génération de ceux qui répondent « Hitler connaît pas ». Bien souvent, ils n'y croient plus. Il faut dire que nous-mêmes qui avons vécu ces événements, éprouvé toutes les humiliations, subi toutes les misères qui en sont résultées, devons parfois faire effort, sauf dans nos rêves, qui, eux, sont marqués de façon indélébile, pour se souvenir de la réalité des faits. Et parfois, nous n'osons pas les rappeler. Je voudrais vous rapporter ce que m'a dit un jour un de mes fils âgé de 6 ans, en revenant de l'école. « Maman, pense à la chance que nous avons de ne pas être protestants si un jour la Saint-Barthélemy se renouvelait. » Tous les enfants français apprennent en effet que dans la nuit du 24 août 1572, les protestants ont été exterminés à Paris par haine religieuse et intolérance. 400 ans sont passés, mais les Français se souviennent. Je crois que c'est... C'est un article très intéressant. Quand elle a fini de parler, tout le congrès s'est élevé pour l'applaudir, parce que vraiment... Un discours d'une haute tenue intellectuelle et humaine. Enfin, je pense que ça devrait être publié parce que. Elle a dit quelque chose, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais. Novembre 77. C'est l'information du mois de novembre, donc. C'est très intéressant. Je ne sais pas si dans les conférenciers qui ont été prévus, je sais pas s'il n'y a pas de témoins qui parlent, n'est-ce pas ? Non. Mais parfois, c'est dommage, on doit faire parler un témoin. Je crois que vous savez que le problème du judaïsme américain face à l'Holocauste, c'est pas le plus terrible. Je veux dire ça.
C'était parler justement à ce propos d'une culpabilité particulière du peuple américain en disant qu'évidemment il ne s'agit pas du même degré que l'allemand.
Oui, ça oui.
Mais le peuple américain, pourquoi le peuple américain peut être n'importe
l'autre? Oui, d'ailleurs, je suis d'accord. Monsieur Soir, je parlais du peuple américain. Non, il y avait une grande différence, attention, parce que la France était occupée, beaucoup de pays étaient...
Par exemple, les questions d'accueil, vous savez qu'il y avait des justement, vous avez parlé de Saint-Louis, en 1939, c'était les Cubains qui ont refusé le
débat. Oui, c'est exact, oui.
Bon, un Cuba, un pays qui est, où il y a toutes les races qui se côtoient, où il y a des Noirs, où il y a des Chinois, où il y a des Maquis, alors, et même ces gens-là, ils ne voulaient pas le dire, en quoi les Juifs ne voulaient pas le dire. Les Cubains
oui.
qui n'avaient le problème avec la somme, qui n'avaient pas la responsabilité de l'impuissance, qui n'avaient...
Ce sont pourtant les petits peuples qui ont été les plus utiles. Parce qu'on sait que...
Oui, c'est au Saint-Domingue.
Oui, c'est ça, oui. Et puis dans l'Amérique centrale, on a aussi... Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, justement, vous me le rappelez, c'est très bien cela. Il y a une chose qui est extraordinaire. Moi je suis toujours reconnaissant à ces gens-là. Mais de savoir que les Américains faisaient tellement de difficultés pour distribuer des visas... En 65, je crois que c'est 1965, les Juifs polonais, les derniers Juifs polonais ont été foutus à la porte de la Pologne. Ils sont arrivés au Danemark, et le Danemark les a laissés entrer sans visa, ce qui n'était pas toujours le cas de la France. Sans visa. Je connais des gens qui venaient d'Autriche en 38, et qu'on n'a pas laissé rentrer en France parce qu'ils fuyaient en plus l'Anschluss. et que la nuit de cristal, un petit peu à Vienne, eh bien, on ne les laissait pas entrer en France parce qu'ils n'avaient pas les papiers en règle, ce qui était inadmissible. Et c'est justement, c'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi les peuples du Nord ont l'air de voir les choses d'une façon différente de ceux du Sud, ou les peuples latins, ou je ne sais pas d'autres, ou même anglo-saxons? Il faut dire que les Danois, ou même les Hollandais, ou même les Suédois, il y a beaucoup de les Juifs sont passés par la Suède. On ne faisait pas tant de tralala avec l'administration. C'est ça, c'est quelque chose qui est impensable, mais moi ça m'a rassuré que les Danois, par exemple, avaient sauvé les Juifs pendant la guerre, et qu'ils y aient remis ça en 65, pour ça, ben, ça, j'ai trouvé ça admirable. Et vous savez, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté pendant mon cours, mais j'ai trouvé un jour une histoire très jolie, et qui est rassurante. Un jour, il y a un Danois, pas un Juif, est allé se faire soigner, je crois, les dents, quelque chose, aux États-Unis. Et ils étaient très embêtés, ils n'arrivaient pas à se faire soigner, je ne sais pas si c'est les dents ou autre chose, mais enfin, ils s'étaient fait soigner une maladie aux États-Unis parce que ça n'existait pas, il fallait un médecin, un grand professeur pour cette maladie. Il est allé aux États-Unis. Et puis le médecin lui a dit, je vous enverrai mes honoraires, c'est pas maintenant, etc. Et quelques mois plus tard, le Danois a reçu le mot suivant. En souvenir de ce que le Danemark a fait pour les Juifs, je ne me sens pas le droit de vous demander des honoraires. Ben ça, j'ai trouvé ça bien. Et vous savez, je crois qu'il y a d'ailleurs une grande attache entre le Danemark et même la Hollande, le Danois et Hollandais. Moi, j'étais pour la Hollande à la Coupe du Monde, mais enfin. Mais je veux dire, entre le Danemark et la Hollande et Israël et les Juifs. Enfin, je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Vous savez, je vais vous raconter un petit détail très curieux. On est au moment des vacances. En 72, donc il y a déjà 6 ans, je suis allé en Scandinavie avec ma famille et je ne voulais pas traverser l'Allemagne. Ça m'était insupportable. Remarquez, il y a un an, exactement le 5 juillet, j'ai dû aller pour Saclay, j'ai dû aller en Allemagne pour voir un microscope, etc. Mais ça m'embête. Mais à l'époque, ça m'embêtait encore plus. Et j'ai traversé, et pourtant, il y avait Willy Brandt qui était au pouvoir, et Heinemann, qui eux deux n'étaient pas considérés comme des nazis. Eh bien, j'ai traversé la Hollande, c'est-à-dire que j'ai traversé l'Allemagne le plus tard possible. Plus tard possible. Et vous allez voir à quel point j'étais omnibulé par cela. J'ai traversé donc le Zuiderzee, j'ai traversé du côté de Groningen tout en haut, j'ai traversé la Hollande et l'Allemagne au plus loin. Je suis entré donc très haut. Et puis, comme je ne voulais pas, c'était l'heure de faire la prière le soir, je ne voulais pas faire prier en Allemagne. J'ai donc je roulais tout le temps et jusque l'autre côté, je suis arrivé en Danemark, et dès que j'ai franchi la frontière 5 mètres, je me suis arrêté, j'ai fait ma tefila. Et vraiment, c'était même un peu tard, mais j'étais obnubilé par cela. On peut trouver ça idiot ou non, c'est simplement ce qu'on ressent. Vous savez que, pardon ? Non, pas du tout, j'étais un peu en retard. Mais ce que je veux dire, c'est pour montrer à quel point, j'ai fait un chinouille, mais à quel point j'étais... Comme j'ai dit, on est traumatisé par cela. Et il y en a qui ça gêne pas, d'autres ça gêne, etc. C'est comme cela. Mais je dois dire... Il y avait un danger. Oui. Alors là, je ferai la réponse que fait toujours Elie Wiesel. Elie Wiesel, je crois que c'est tout à fait vrai. Ça nous rassure sur la valeur de notre peuple. Je ne dis pas qu'on est toujours bon, mais au moins sur cela, sur la valeur, comment dirais-je, sur le sens de nos valeurs, ce qu'on appelle les valeurs permanentes du peuple juif. Elie Wiesel a dit un jour, il m'a dit, il n'y a les Juifs, en sortant des camps de concentration, aurait pu, comment dirais-je, devenir des voyous, tout incendiés et tout. Enfin, des voyous, c'est même un peu... C'est ça que vous voulez dire ? Oui.
Madame Colinabière a répondu tout simplement nous avons subi ça il y a 35 ans. J'ai subi ça il y a 35 ans, on va maintenant à l'heure.
Non, je ne crois pas que ce soit vrai.
Ah, ben, c'est monsieur.
Oui, mais je ne crois pas, je crois ça d'ailleurs impossible. Oui, mais je crois que c'est impossible. Je crois d'ailleurs que j'ai lu des interviews, j'ai souvent lu des interviews de Gad Meir. Non. Bon, okay, vous avez un bon moyen de le savoir, hein, si c'est vrai. Non, pas du tout. Mais Golda, moi, j'ai écrit une fois, vous savez, pourquoi vous gênez. Hein. Bon, c'est impossible, vous savez très bien, elle a vécu les pogroms. Il n'y a pas un juif qui aurait fait... Vous savez, il y a quelqu'un qui me rappelle au moment où on a arrêté Eichmann en, Eichmann en 60 en Argentine, et quelqu'un avait dit à sa clé, tiens, on devrait lui faire faire la même chose que faire subir la même chose que ce qu'il nous a fait. J'ai dit non. Parce qu'il y a alors deux choses l'une, où on se bat pour une idée, etc., un peu des principes, et alors si on fait la même chose, alors c'est pas la peine de faire des procès, de se battre. Donc c'était non. Naturellement, l'envie nous prenait, etc., d'accord. Et de toute façon, vous savez, faire quoi? Qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus? Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec lui? C'était impossible! Il était complètement dépassé par sa comptabilité, etc., c'était impossible. Et de toute façon, comme principe pas seulement humanitaire, enfin, des soins appelés les droits de l'homme, simplement que les principes juifs n'enseignent pas du tout la vengeance gratuite. Enfin, vous savez, quelqu'un, c'est toujours quelque chose comme ça. Vous pouvez donner une fessée à votre fils parce que devant vous il fait une bêtise, mais si vous rentrez chez vous et votre femme me dit, tiens, donne-lui une fessée parce qu'il a fait une bêtise, vous ne le ferez pas. Parce que c'est pas la même chose, vous comprenez, c'est... Non, je crois que c'est pas. Disons que ça a été mal rapporté par le. D'ailleurs, vous savez, quand on lit Golda Meir et tout, moi je lis ses mémoires et tout, elle a subi les pogroms de Russie. Vous savez que le judaïsme n'enseigne qu'une seule chose, je dis toujours à mes élèves. On le laisse à d'autres. Mais non, il enseigne que la haine de la haine. C'est dur à avaler, vous savez. Nous avons la haine de la haine. Ça veut dire que par moments, on est complètement dépassé. On a eu des réactions dans les camps de concentration où on n'était pas assez violent. On n'était pas assez méchant. Il y a des moments où on n'est pas assez méchant. Mais il y a eu des moments vraiment admirables. Des gens qui... je pourrais presque dire que on n'a pas, au lendemain de la guerre, on n'avait pas la haine de l'Allemand. On ne peut pas avoir une haine comme ça. On avait la haine du nazi. Ce n'est pas la même chose. Et je crois qu'on peut quand même rendre grâce à Jules Isaac. Quand Jules Isaac a sorti son livre « Jésus et Israël », ou un autre, je crois, je ne sais pas si c'était peut-être la jeunesse de l'antisémitisme, il a dédicacé à sa femme, etc., qui sont morts de la main des Allemands. Et je crois que c'est Daniel Robbs qui lui a dit non, parce que ça voudrait dire que tous les Allemands étaient coupables, on ne peut pas dire cela, même si c'est vrai du point de vue électoral, mais il a donc barré Allemand et il a mis nazi. Ce qui, d'ailleurs, est vrai. On ne pourrait pas dire la même chose pour les communistes en Russie. On ne peut pas dire que tous les Russes sont coupables de la politique, etc. Ou en France, etc. Enfin, c'est pareil partout. Mais enfin, c'est cela. Oui. Oui. Non. J'ai dit qu'après, on avait séparé. C'est après qu'on a séparé. Au début, ils ne pouvaient pas, mais après, on a séparé. Je vous demandais simplement une chose. Parmi vous, ceux qui sont là, est-ce qu'il y en a qui sont... Bon, vous êtes tous allés en Israël au moins une fois. Est-ce que vous êtes tous allés au Yad Vashem? Vous êtes tous allés au Yad Vashem? Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont allés par hasard, ou disons même pas par hasard, au muséum du Kibbutz Lochami HaGetaot, près de Akko? Toi? Vous? Je vous recommande, si un jour vous êtes en Israël, visitez le muséum du Kibbutz Lochami HaGetaot. C'est d'ailleurs eux qui ont, les gens de là-bas, qui ont fait ce film, le 81e coup. C'est juste au nord de Akko. Oui, mais en vérité, vous savez qu'ils ont changé, mais le premier titre était le vrai, le 81e coup. La première fois qu'ils l'ont donné, ils l'ont donné au dossier de l'écran comme cela. Et moi, j'ai jamais entendu parler, déjà parce que j'étais en Israël à un congrès à huis clos, sur les Juifs de Russie, et puis quelqu'un m'avait dit, surtout, va au muséum Kibbutz Lochami HaGetaot. Ils sont en train de faire un film et j'ai été voir ce truc-là. Et quand je suis revenu, j'en ai parlé un petit peu, puis juste, il a été programmé au dossier de l'écran. Et je tiens, d'ailleurs, ça apporte de l'eau à mon moulin. Quand je vous disais que la difficulté dans ce siècle, c'est de croire, même nous, autres juifs, on ne croit pas toujours ce qu'on vient nous raconter, c'est que le 81e coup s'appelait comme cela parce qu'un enfant avait survécu, il avait eu 80 blessures, pas 81, 80. Il avait été blessé 80 fois. Il a survécu, il a raconté son histoire en Israël, et on n'a pas voulu le croire. Alors il a dit... Ben ça, c'est la 81e blessure. C'est de là que vient le terme. C'est-à-dire que on ne veut pas croire. Par les nazis, moral, c'est-à-dire il a été foudroyé par ça, enfin, si je puis dire, il n'était pas cru par ses... Et d'ailleurs, en vérité, quand on ne croit pas, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas vraiment. Ça veut dire que c'est difficilement... croyable, c'est difficilement acceptable. Vous savez, c'est partout pareil. Hein. C'est embêtant quand il s'agit des hommes, mais ça peut être vrai parfois en physique. en mathématiques, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire passer, ou hein, dans tous les domaines, je crois. Hein, ah, voilà, oui.
Culpabilité quand même au niveau des cultures.
Au niveau des...
Au niveau des cultures, au niveau des civilisations.
Oui, tout à fait d'accord.
Parce que vous citez des petits pays qui sont aux grandes puissances, que des individus sont minoritaires, sont dans leur propre pays. Mais globalement, il y a une culpabilité. Oui. Des civilisations.
Oui, bah, à ce sujet-là, à ce propos, je vous recommande, si vous ne l'avez pas lu, le remarquable livre de Perfit, Le mal français. Cette étude des sociétés latines, anglo-saxonnes, catholiques et protestantes, c'est remarquable, parce que ça donne une idée, finalement, des, comment dirais-je, des politiques que l'on suivait, tant sur le plan culturel que sur le plan politique, etc. Enfin, sur le plan politique, oui, mais sur le plan culturel, cultuel, social, économique, etc. C'est remarquable. Comme les... enfin, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu ici, mais ça donne une idée. Et alors, il dit qu'il le dit d'ailleurs tout nettement, il ne veut pas discuter du problème juif. Il dit ça, c'est encore un problème à part. Mais il a une admiration, et ça se sent, et ça se comprend. Il a une admiration pour la Hollande, ou disons même pour les Hollandais. Il a une admiration pour les Hollandais. C'est... Je n'irais presque à penser qu'il changerait de nationalité, que je ne serais pas surpris. Eh bien, je crois que c'est intéressant de savoir qu'il y a des gens, comme on dit en yiddish, qui sont des mensch. C'est un peu cela. C'est savoir à quel moment on doit se réveiller.
Il y a un problème, parce que nous parlons du passé, et actuellement, une question très importante,
oui.
La classification mondiale, pour justement le Holocauste, nous la voyons paraître sur nos yeux, s'amplifier. Qu'est-ce que nous devons faire? Je crois que le problème des guerres se pose. De quelle manière, ce n'est pas une guerre qu'on doit faire. Chose.
Vous parlez de quel côté là? Les écrits néo-nazis, pardon.
On voit de nombreux écrits, on en a parlé de la France Culture, on peut en parler un peu partout dans les journaux. À savoir, comme vous l'avez dit, on diminue de plus en plus le nombre des victimes de guerre.
Eh bien écoutez, à ce sujet-là, vous allez me donner l'occasion de faire une réponse intéressante. J'avais oublié un point dans mon exposé. Faut pas oublier, enfin, sinon qu'il y avait tellement à dire. Et je crois que c'est encore une fois Nahum Goldman qui met le point. On est sur ce. Dans l'engrenage. Et Nahum Goldman dit une chose tout à fait juste et inquiétante. Il dit que, en particulier pour les juifs américains, bien sûr, ce qui était gênant dans la culture des juifs américains, c'est que les intellectuels juifs américains n'existaient pas. On ne les entendait pas. Les seuls dont on a eu écho, ce sont des juifs qui venaient de l'extérieur des États-Unis, Albert Einstein et d'autres. C'est-à-dire que, qui avaient vécu l'Holocauste, du moins une partie de l'Holocauste, ceux-là prenaient la parole, ceux-là étaient, comment dirais-je, des intellectuels présents et vivants. Les autres, il dit, on ne les voyait pas. Tout simplement parce qu'aux États-Unis, comme je dis tout à l'heure, il dit à Nahum Goldman, ce qui primait au début, c'était la réussite sociale. Alors on se foutait pas mal de ces petits intellectuels à plumes, etc., d'université, ils n'étaient pas encore des personnalités. Et ça viendra nettement plus tard. C'est, vous comprenez, aujourd'hui, on a un Shaul Bello aux États-Unis qui a le prix Nobel de littérature. Il y a Philip Roth qui écrit, Herman Wouk, etc. Il y a toute une intelligentsia juive aux États-Unis, etc. Mais ce ne sont pas des leaders spirituels et intellectuels. De toute façon, ce ne sont pas des leaders. On les trouve pas aux États-Unis tellement. On les a trouvés en Europe, mais aux États-Unis, ils sont absents. Et on peut espérer, après tout, qu'on va les trouver en Israël, me direz-vous. Mais en Israël, c'est pas vrai non plus. Nahum Goldman dit, sur ce point-là, je suis très d'accord avec lui, c'est que dans son interview par mon co-auteur, pas le premier mais le second, parce que je viens de finir un livre sur les Russies, c'est Léon Abramovitch qui a interviewé Nahum Goldman, vous savez, dans ce livre qui s'appelle Le paradoxe juif, qui est un livre remarquable. On pourra toujours dire que Nahum Goldman, il se présente, mais il a quelque chose à dire, comprenez ? On peut toujours être d'accord avec lui ou non, il a quelque chose à dire. Et bien, Nahum Goldman dit que ce qui l'inquiète en Israël, c'est la rupture du front intérieur. C'est-à-dire qu'on a l'air d'oublier, comment dirais-je, que le peuple juif, il draine une culture. Et qu'en Israël, c'est pas parce qu'on est en Israël, qu'on met les pieds en Israël, qu'on doit, comment dirais-je, simplement vivre au goût du jour. On doit, comment dirais-je, aller avec la tradition et ne pas la laisser en arrière. Et je crois que c'est intéressant de la part de Nahum Goldman, parce que Nahum Goldman, c'est quand même lui qui a fondé l'Encyclopédia Judaïca, et que quand on regarde la somme d'intelligence et de valeurs juives qui sont emmagasinées dans l'encyclopédia judaïca, on comprend que nous n'avons pas à abandonner nos valeurs et que ce n'est surtout pas aux autres à nous les ressortir. Moi, je dis toujours, si vous allez à Amsterdam, allez voir le Rijksmuseum, vous avez là une collection fantastique de Megillus, de Ksuvos, vous savez, tout ce qui appartient à la communauté juive. Moi, j'étais à Prague, j'ai vu tout ce qui appartenait aux communautés juives de Tchécoslovaquie emmagasiné dans un musée d'État juif. Eh bien, je dis, c'est joli, ça. Mais je dis que le juif d'avoir sa culture en lui, il ne doit pas se déplacer dans un musée. C'est très bien, on aime bien voir dans un musée ce qui nous appartient, mais il ne faut pas compter uniquement là-dessus pour se rappeler qu'on est juif. Je crois que c'est le point que disait Malcolm Goldman. Eh bien, en France, c'est la même chose. Pour répondre à ce genre d'interrogation, d'ailleurs, ce n'est pas seulement pour la France que vous parlez en vérité, eh bien, pour répondre à ce genre d'interrogation, nous n'avons pas de meneur. Et je disais d'ailleurs à Rafi Rosner la chose suivante. Vous pouvez regarder sur les conférenciers de ce séminaire, la plupart ne sont pas des historiens de l'Holocauste. Je crois que, ne pas me tromper de beaucoup, hein. Je crois que ce sont des historiens qui peuvent parler là-dessus, mais ce ne sont pas des spécialistes de l'Holocauste. Je crois que je suis probablement un des rares, il me semble, le seul sur cette question. Ça ne me réjouit pas. Je dis simplement que c'est difficile de parler de cette époque. Moi, peut-être que je le suis parce que j'ai vécu, étant enfant, cette époque, et que ça me tient là. De plus, j'écris sur la Russie parce que je suis originaire de Russie, et ça me tient là aussi. Peut-être qu'il faut cela, il faut ce petit quelque chose qui vous accroche l'âme, etc., pour faire quelque chose. Mais il n'y a plus, en France, en tous les cas, il n'y a plus de voix. En vérité, c'est une voix que vous cherchez, c'est une voix intellectuelle, un leader. On connaît Jacob Kaplan, le grand rabbin de France. Je lui ai dit, vous êtes le rabbin du courage. Il est une voix. À un moment où on a besoin de lui, on l'entend. Ben, j'ai peur que dans quelques années, enfin j'espère qu'il arrivera jusqu'à 119 ans, on dit toujours 120, mais vous savez, 119, c'est pas si mal. Eh bien, je crois que j'ai peur qu'on n'ait plus de leaders. On en manque. On en manque d'ailleurs partout. Il n'y a pas que chez nous qu'on manque de leaders, vous savez. On manque de leaders. Mais nous, on a besoin d'un leader. Et écoutez, dès 1938, je me rappelle, il était alors qu'il n'était même, je crois qu'il n'était même pas grand rabbin de Paris. Dès 1938, Jacob Kaplan participait à des meetings contre le truc sur la nuit cristal. Vous savez, la nuit cristal, je parle de ça dans mon livre. Il était là, il a toujours été là. C'est pas quelque chose, il n'a pas fait simplement après-guerre, il a toujours été là. Vous savez, donc c'est quand même une présence. C'est un tempérament. C'est un tempérament. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'on ait le plus.
Vous ne croyez pas qu'il y a un drame pour le judaïsme de la diaspora dans le fait que les meilleurs s'en vont en Israël?
Les meilleurs? Oui, oui, d'ailleurs je ne voulais pas trop le dire, madame, vous savez, vous m'avez posé la question, mais vous voyez, il y a Manitou qui vient là. Et en 1967, parce que c'est en 67 que ça s'est passé, juste un petit peu après la guerre de six jours, vous avez eu une alia sur Israël, vers Israël, une alia d'élite. C'est ça qui est extraordinaire, une alia d'élite. Vous avez eu Manitou, Benno Gross, Neher, Théo Dreyfus, vous savez, un tas de gens, et on a dit, on en trouvera d'autres. Les cimetières, comme on dit, vous savez, on dit toujours, les irremplaçables sont pleins, il y en a plein les cimetières. On s'est peut-être trompé. On n'a peut-être pas tellement de gens dans certains domaines, et parfois ils nous manquent. Parce que, et pourtant, on a une population d'un demi-million, il y en a qui disent 700 000, mais enfin, je crois que c'est un peu excessif, mais disons un demi-million de juifs, et nous n'avons pas encore, comment dirais-je, su remplacer, il me semble, tu es d'accord, il y a des gens qu'on n'a pas su remplacer, hein. Bon, alors, je crois qu'ils vont sortir bientôt. Non, je parle surtout dans le domaine qui nous intéresse, c'est dans le domaine spirituel. Je crois que vous voulez des exemples, des meneurs, des représentatifs, n'est-ce pas? Des représentatifs, oui. L'autorité, oui. Vous savez que Nahum Goldman, par exemple, ou Stephen Weiss, c'était des gens qui avaient du tempérament. Vous savez que, d'ailleurs, que, contrairement à ce qu'on croit, Nahum Goldman n'était pas un Allemand, c'était un Lituanien. Il était accessible à tous les courants, mais c'était une époque. Maintenant, on va en trouver d'autres. Oui, mais on a toujours. Non, mais ça variait selon les pays. La qualité et tout ça, ça variait selon les pays. Et je crois que. Je ne sais pas. Vous voyez, la France est différente de l'Angleterre. En Angleterre, un leader politique, un leader juif, peut en même temps se faire entendre même à la Chambre des communes. Ce qui n'est pas le cas ici. Vous comprenez, c'est ici, on n'aurait jamais pensé que Mendès France aurait pris la parole. Les juifs. Simone Veil le fait. Parce qu'elle sort de Ravensbrück, qu'est-ce que vous voulez. C'est une expérience dont elle se serait volontiers passée, mais c'est ça qui la tient. Vous voyez, moi je l'ai approché Simone Veil parce que je l'ai filmé un jour, il y a exactement un an, un peu plus d'un an, je l'ai filmé. Elle était venue inaugurer un bâtiment juif du côté de Brunois. très joli bâtiment, chez des Lubavitch d'ailleurs, pour jeunes filles, très joli bâtiment, et moi je filmais. J'ai été juste à côté de moi, une personne toute simple. Et elle passait dans les salles de classe très jolies, pour dire, ou dans les chambres, pour dire quelques mots aux jeunes filles. Et quand elle est arrivée, les enfants étaient tous alignés. Et elle a dit après au directeur, qui est un de mes amis, elle a dit, tu sais, ça l'a drôlement marqué. Ça lui a rappelé les enfants pendant la guerre. Vous savez, ces enfants juifs qu'on les mettait... D'ailleurs, Giscard d'Estaing, quand il est allé à Auschwitz, il a parlé de cela. Les yeux, vous savez, des enfants qui, dans les autobus. Vous savez, les enfants juifs qu'on raflait et qu'on mettait dans des bus. Pour amener, il dit, je ne pouvais pas ne pas me souvenir de ces regards. Écoutez, il y a des juifs qui se... Il y a des juifs qui, oui, je comprends. Il y a des juifs qui n'ont pas besoin, c'est-à-dire qui sont passés au travers de certaines expériences tragiques, c'est-à-dire nos enfants d'aujourd'hui, heureusement. Mais il y a ceux qui ont vécu soit l'Holocauste, soit, par exemple, les guerres en Israël. Ça aussi, ce sont des problèmes. Vous savez, quand les enfants sont dans... On a vu ça au moment de la guerre des Six Jours, en particulier, ou de Kippour. Quand les enfants des kibbutzim sont dans les bunkers et qui sont aussi en train de faire des dessins, comme les enfants juifs de Theresienstadt, dont j'ai vu les dessins à Prague, c'est une situation commune. Vous savez, dans le livre, le très joli livre, paru au lendemain de la guerre des Six Jours, Siach Lochamim, le propos de combattants, de ces juifs, ces soldats israéliens, qui racontaient leur expérience de la guerre des Six Jours, et qui la comparaient à l'expérience de leurs parents en Europe, au temps de la Shoah, et qui disaient « mon père aussi », etc., etc. Il y a des attitudes comparées quand il voyait ce petit gosse sur le dos d'un arabe passant le pont Allenby et qu'il disait, tiens, ça me rappelle mon père aussi quand il me sauvait de Hongrie. C'est écrit comme ça. Vous savez, ce sont des expériences qu'on ne peut pas retirer, ça.
Puisque lui,
oui, tu remarques, c'est une bonne question que vous posez. Je ferai simplement un petit commentaire rectificatif. On ne dit pas qu'il a voulu tuer.
Non,
il s'en serait bien passé. Non, c'est simplement que dans la bagarre,
c'est. Non, c'est pas le fait d'avoir voulu tuer. Non,
oui.
Non, c'est pas ça. Il a défendu un hébreu. Mais justement, le fait d'être devenu un leader juif, oui. Un leader d'esclaves, alors que lui, il vivait en tant que.
D'ailleurs, ça peut expliquer, entre parenthèses, pour quelle raison c'est son frère qui était Cohen, qui est devenu le grand prêtre, et pas lui, parce qu'il avait du sang sur les mains. Mais c'est ça. Le truc, c'est qu'en vérité, c'est que c'est rassurant que de temps en temps, quand il y a une injustice, un homme se lève. Et moi, je pense que je n'étais pas le seul, mais j'étais extrêmement intéressé par le feuilleton sur Zola, parce que c'était rassurant. Et je me rappelle que Begin a dit, quand il a été interviewé il y a un an, je me rappelais, Begin avait dit à la radio, j'espère pour la France qu'elle aura encore un jour un Zola. Et moi, je dis toujours dans mes conférences, non, il n'y aura plus un Zola. Ça, un Zola, c'est plus possible. Ça aurait été possible, par exemple, si Camus avait survécu. Je ne pense pas que Sartre, il est passé à côté de la question. Mais je dis qu'à un certain moment, il faut savoir être un Zola, et ça, ce n'est pas donné à tout un chacun.
C'est...
Écoutez, si vous pensez que c'est hors du sujet, on va arrêter. Écoutez, pour Moïse ?
Oui, pour Moïse.
C'est-à-dire que ce n'est pas le sujet de la semaine. Non, vous inquiétez pas.